بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين شفاء الإسلام. La semaine dernière, on avait expliqué le verset 34 de la sourate Al-Qalam, dans lequel Allah Azza wa Jal rappelle que Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im, que les pieux auront auprès de leur Seigneur les jardins de délices. Et on a dit que ce verset, c'est le dénouement. Ce verset, c'est le réconfort pour le croyant. Ce verset tombe à point et va trouver sa place dans le cœur des sahaba qui, à cette époque, pendant la période mécoise, connaissent énormément de difficultés et c'est la période des insultes, la période des calomnies, c'est la période des tortures où affirmer être musulman à Mecca à cette époque, c'était d'une certaine façon signer son arrêt de mort. Et dans ces circonstances où les musulmans sont éprouvés et ils sont oppressés et opprimés, quand Allah Azza wa Jal leur rappelle qu'il y a pour eux un jour un paradis, et ce paradis où il y a des délices, et avec les différents versets qui se complètent concernant la description du paradis, le fait qu'Allah Azza wa Jal rappelle que vous avez un Jannah qui vous est promis, c'est une source de motivation et c'est un apaisement pour les sahaba. Et nous devons nous aussi être capables de nous connecter avec ce genre de versets dans n'importe quelle situation où on se sent un petit peu affaibli, où on se sent un petit peu dépassé par les événements. En fait, à partir de quel moment un moumine trouvera le réconfort dans les paroles d'Allah, dans le ayat du Coran? Premièrement, c'est lorsqu'on aura un lien vraiment solide avec le Coran. Et cela transite par une lecture assidue du Coran, une lecture régulière du Coran. Si on attend uniquement le mois de Ramadan pour ouvrir le Coran et lire, ben c'est clair que la beauté, même si on ne va pas encore dans le sens de la traduction, de l'étude du tafsir, mais déjà la relation que le mu'min doit avoir avec le Coran doit être une relation quotidienne. Et donc si on attend une fois un mois sur 12 pour lire le Coran, ben c'est normal qu'on ne trouvera pas le réconfort dans les versets, alors que c'est un livre qu'Allah a envoyé pour nous, qu'Allah Rabbul Izzah a révélé pour cette Ummah et qui est accessible à tout le monde. Le Coran n'est pas réservé aux prophètes. Le Coran n'est pas réservé aux savants, aux érudits. C'est un livre qu'Allah a révélé pour chaque membre de cette communauté et chacun en fonction de son niveau, de sa capacité à apprendre, à s'instruire, on est capable de trouver une portion de lumière. Certains mufassirin, rappelle, on avait expliqué ça au début dans l'introduction sur le tafsir. Certains savants expliquaient que lorsqu'ils lisaient le tafsir, lorsqu'ils lisaient un verset, ils trouvaient des sagesses dans le verset. Et s'il arrivait de relire plus tard le même verset, il trouvait encore d'autres sagesses. Ça veut dire que chaque verset est une source inépuisable de lumière et de connaissances, parce que c'est la parole d'Allah. Et la parole d'Allah est à l'image de ses qualités, c'est infini, c'est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et une personne qui a déjà établi un lien régulier avec le Coran en termes de lecture, maintenant s'il peut aller un peu plus loin dans les notions qu'on a citées dans la traduction, et puis au fur et à mesure, s'il s'est familiarisé un peu avec la traduction, il va commencer à lire un peu le tafsir. Il y a des sites, malheureusement en français il n'y a pas beaucoup, mais en anglais, ceux qui sont anglophones, en anglais il y a des sites de tafsir, c'est vraiment bien fait, très 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 bien fait, mashallah. Même sur les portables, on a plein de Coran en application et vous cliquez deux fois sur le verset, on vous donne tous les tafsirs possibles. Ibn Kathir, Qurtubi, Sa'di, mais tout est en anglais. En arabe, bien sûr, ça, il n'y a pas de doute qu'il y en a. En anglais aussi, il y a. Donc, on veut dire qu'on a toujours la possibilité, même si ce n'est pas une étude approfondie, le but n'est pas de devenir un mufassir, un commentateur du Coran, mais ne serait-ce qu'à travers les versets du quotidien qu'on récite, on sait qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal délivre comme message. Et ça, c'est important. Pour donner un sens à notre lecture et donner un sens également à notre salat. Pour trouver une concentration de la salat. D'accord? Si on veut avoir la concentration de la salat, il faut être connecté avec les paroles qu'on lit, avec les versets. Ça, c'est la moindre des choses. Également, les savants, ils donnent également comme explication, et puis on revient au verset. Ils disent, une personne pourra s'enrichir encore et encore des versets du Coran, d'un même verset du Coran, il continuera à s'enrichir si son degré de piété et de pratique de la religion augmente. Il y a quelqu'un qui, dans une phase de reconstruction spirituelle, il est en train de reprendre, d'accord ? Il lit un verset, il lit le commentaire, il va comprendre certaines choses, mais s'il a continué son parcours, il a continué à avancer, il a acquis, mashallah, pas mal de bases maintenant en termes de prière, en termes de prière de la nuit, en termes de dhikr, en termes de lecture du Coran. C'est-à-dire que la personne a avancé dans la religion, sa lecture des versets sera différente. C'est-à-dire que quand la personne va lire le verset, il va trouver une source d'inspiration. C'est-à-dire que son cœur penchera plus vers la parole d'Allah Azza wa Jal et il trouvera encore plus de richesse dans le verset que celui qui a une relation, on va dire, très basique avec le Coran. Tout ça, ça fait partie des miracles du Coran. C'est quelque chose qui est sans fin, qui est sans limite. Si vous réunissez tous les livres de tafsir qui ont été écrits et vous lisez le tafsir d'Al-Fatiha, pourtant ce sont des versets connus de tous, ben on va voir que d'un mufassir à l'autre, il y a des richesses, il y a des enseignements qu'on ne trouve pas chez tout le monde. Allah Azza wa Jalla accorde la connaissance à qui il veut. C'est-à-dire qu'en fonction de la piété et des efforts, Allah te donne la possibilité de comprendre le contenu des versets. Maintenant, toujours, ces versets, ces contenus, ces tafsirs doivent être conformes aux autres versets du Coran. C'est ce qu'on appelle tafsir al-Qur'an. Bil-Qur'an, c'est le meilleur des tafsirs. Et ces commentaires doivent être conformes également avec les textes prophétiques. Et une autre spécificité du Coran qui prouve son caractère miraculeux, c'est si on comparait l'intégralité des hadiths authentiques qui existent dans les Kutub Sitta, dans les six grands livres, plus le Muwatta de Imam Malik, plus le Musnad de Imam Ahmed. Là, on a vraiment du lourd, d'accord? Si on prenait, je ne sais pas ça fait combien de hadiths, si on prend les 50 000 hadiths qui existent dans tous ces livres et qu'on compare avec les plus de 6 000 versets du Coran, il n'y aura jamais une contradiction. Il n'y aura jamais la moindre contradiction. Bien au contraire, les hadiths complètent les hadiths, ce sont les tafsirs des versets. Ça prouve que ce dîn vient d'Allah et c'est une religion sûre, authentique, de véracité, une religion qui est claire, qui est limpide, où il n'y a rien d'ambigu, il n'y a pas de double discours, il n'y a pas de contradiction. Et ça nous conforte spirituellement, ça nous renforce le fait de voir que tout ça est une organisation exceptionnelle qui vient d'Allah Azza wa Jal. Donc nous aussi, on doit essayer de retrouver un certain réconfort à travers ce verset. Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. On avait dit que le jour de Qiyama, on ne cache plus rien. Et le jour de Qiyama, c'est le moment où Allah Azza wa Jal va faire la justice. Et pour ces Makkis, ces musulmans de Mecca qui vivent donc ces années difficiles, ils savent que le jour de Qiyama, il y aura là la justice de la part d'Allah Azza wa Jal. On avait fait un parallèle avec ce que nous vivons et les événements qu'il y a autour de nous dans différents pays. Même si les oppresseurs meurent sans être puni, sans connaître de châtiment, et que les opprimés meurent sans obtenir l'aide d'Allah Azza wa Jal, on reste confiant que la vraie justice, la justice de l'au-delà. Parce que la justice d'Allah peut intervenir dans ce monde et dans l'au-delà. Ou alors la justice d'Allah intervient uniquement de l'au-delà. Mais ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas de figure, il y a une justice également là-haut, et c'est là-haut qui sera, ce sera le vrai adl, la véritable justice de la part d'Allah Azza wa Jal. Également, il y a un verset qu'on a passé en revue aujourd'hui pour la khutbatul jum'a. Yawma tubla sarair. Yawma tubla sarair. Le sens du verset, c'est que en ce jour, les secrets seront dévoilés. En ce jour, les secrets seront dévoilés en commentaire. Les Mufassirin, rahimahumullah. Est-ce que c'est Ibn Kathir ou As-Sa'di? Un Mufassir connu, il expliquait. Al-Shawkani, rahimahullah, il explique, excellent tafsir, traduit en français. Il y a la traduction en français, le tafsir de Al-Shawkani. D'accord? Très, ou alors c'est As-Sa'di qui est traduit en français. En deux volumes là. Le gros là, c'est As-Sa'di, il me semble. Tafsir al-Karim al-Rahman. Mais Al-Shawkani, ça fait partie des tafsirs qui sont, bon, c'est en langue arabe, mais c'est des tafsirs très simples. Celui qui a une approche de la langue, c'est beaucoup moins complexe que Ibn Kathir. C'est vraiment beaucoup moins compliqué. C'est vraiment un tafsir qui, c'est pas que l'autre donne pas envie de lire, mais ça donne envie d'avancer parce que les explications sont claires et c'est assez concis. Rahimahullah, rahimahumullahu jami'an. On doit avoir du respect pour tous ces grands savants. Ces savants de tafsir, ces savants du fiqh, ces savants de usul, ces savants du hadith, de ulum al-hadith. Même si certains savants parfois se sont trompés, y a-t-il un être humain sur terre qui a la parole véridique depuis sa naissance jusqu'à sa mort? Y a-t-il un être humain? Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À part le prophète, je vous ai eu là, à part le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas un être humain qui peut avoir la garantie de ne jamais se tromper. Donc si quelqu'un s'est trompé, ce n'est pas une raison, hein, encore une fois on le répète, de faire de la propagande parce que telle personne s'est trompée dans telle masla, donc il ne faut pas le suivre. Wallahi, je crains que Shaitan ne cesse de faire des efforts pour diviser la Ummah. Et c'est une réalité. Et lorsque ce waswasa touche les gens de science et les gens qui... Et c'est là le danger. Lorsque les waswasa touchent, les insufflations de Shaitan, ces pièges touchent les gens de science, je crains que ça risque de décourager les personnes qui sont en train de se reconstruire spirituellement. Il y en a qui essaient de revenir, qui essaient de pratiquer, qui ont soif, qui ont envie d'apprendre. Et lorsqu'on voit parfois, bon ben, les divergences qu'il y a et à cause des divergences, les gens se séparent, ben parfois, ça peut être troublant, perturbant. Et si on lit la biographie des pieux prédécesseurs, des grands savants de l'islam, et j'ai un livre à la maison, ça s'appelle Adab al-Ikhtilaf. Les deux thèmes sont connus. L'éthique, le respect, lorsqu'on a des divergences. Comment les grands savants de l'islam, malgré parfois des avis différents, ils se respectaient. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on te déclare égaré. Ça, c'est une réaction vraiment basique et Allah musta'an, il n'y a pas de terme pour désigner ça, qu'Allah nous accorde la sagesse. Donc, يوم تبلى السرائر الشوكاني رحمه الله, il dit que dans ce monde, un être humain peut cacher ses défauts. Il peut donner une autre image de lui auprès du public. Et peut-être c'est son épouse qui connaît, peut-être ce sont ses enfants, ou ses parents, ou ses proches qui connaissent mieux la face cachée de la personne. On va dire que là-dedans aussi, il y a une hikmah d'Allah. Alhamdulillah. Celui qui cache les défauts de ses serviteurs. Mais le jour de Qiyama, les choses seront apparentes. يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ. Il y aura des visages qui seront illuminés par la foi, par la sincérité, le nour de la foi, et quelqu'un qui a eu un parcours correct de ce dunya. وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ. Il y a des visages qui seront obscurcis à cause du kufr, de l'hypocrisie, des péchés, ainsi de suite. Et que le jour de Qiyama, on ne cache plus rien. Il n'y a plus d'hypocrisie, il n'y a plus de double discours, il n'y a pas tout ça. Ce qu'on a cumulé dans ce dunya, comme a'mal, ben c'est avec ça qu'on se présente, et c'est de cette façon qu'on est ressuscité, et c'est de cette façon qu'on reçoit notre livret de compte, et c'est de cette façon qu'on est présenté devant le tribunal d'Allah, et c'est de cette façon qu'on traverse le sirat. C'est le résultat du parcours. Donc à nous de nous ressaisir, même s'il nous arrive des fois, nous restons des êtres humains, s'il nous arrive des fois de connaître des périodes de faiblesse spirituelle, pendant quelques jours, peut-être une personne est revenue vers un vieux péché où il a repris, je ne sais pas, une liaison qui n'était pas correcte ou, je ne sais pas, il a recommencé avec certaines mauvaises habitudes. Mais l'être humain, de par sa nature, est faible. L'être humain, de par sa nature, est influençable. Ça peut être un cercle d'amis, hein, des amis qui sont de mauvais conseillers. Et pendant quelques jours ou quelques semaines, on a suivi ces personnes qui ne méritaient pas notre amitié et on est parti dans des endroits interdits, on a fait des choses qui n'étaient pas bien, on a consommé ce qu'on n'avait pas le droit de consommer, on a écouté ce qu'on n'avait pas le droit d'écouter, on a regardé ce qu'on n'avait pas le droit de regarder. Mais le plus important, c'est que après des moments de faiblesse, le mu'min, il doit être capable de revenir.
il se rachète, il regrette. Al-Nadam, les remords, ça c'est une preuve de foi. Quand est-ce qu'une personne regrette ses péchés? C'est quand il a conscience qu'il a un engagement auprès d'Allah. C'est quand il est conscient qu'il doit revenir un jour auprès d'Allah et répondre de ses péchés. On avait commencé à expliquer un hadith à Montreuil mardi. On a commencé, on n'a pas complété. C'est une vidéo qu'on a reçue. Un cheikh qui explique un hadith qui est connu, mais il y a des fois où il faut l'écouter de quelqu'un d'autre. Et c'est comme si qu'il y a des clics, on se rend compte que ce hadith est extraordinaire. Et ce cheikh parlait des péchés qu'on accomplit seul. Les péchés qu'un homme accomplit à l'abri des regards, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a que toi et Allah. Et ce qui était intéressant, c'est que c'est un hadith de l'époque prophète, bien sûr, mais ce qui est intéressant, c'est que ce hadith est tout à fait d'actualité, et c'est ce genre de hadith qu'on essaie de mettre en avant, d'expliquer à nos élèves, d'accord? Parce que nos jeunes, le gros problème de nos jours, c'est tout ce qui est mauvais, tout ce qui est sale, tout ce qui est rempli de vices à travers le portable, à travers l'ordinateur, à travers la télé, à travers les chaînes satellites et ainsi de suite. Et nos jeunes, nos enfants, nos adolescents ont accès à ce qui est mauvais, ce qui est nuisible pour leur foi, avec une grande facilité, sans qu'il y ait une quelconque restriction. Il suffit que, même s'il ne va pas allumer la télé, il suffit qu'il est dans son lit, que tout le monde dort, il a sa connexion Wi-Fi de la maison, il peut regarder tout ce qui est mauvais, tout ce qui est nuisible. Et c'est dans ces moments-là que le mu'min voit la nature de sa relation avec Allah Azza wa Jalla. Et ce cheikh expliquait que des personnes se présenteront le jour de Qiyama avec « a'mal mithl al-jibal », avec des actions comme des montagnes. Et puis le cheikh en commentait, elle dit, ça peut être des gens qui ont fait, c'est le commentaire du cheikh, hein, ça peut être quelqu'un qui a fait creuser un puits dans un pays, ça peut être quelqu'un qui a financé une école, qui a fait vraiment des actions qui, on va dire, qui sortent un peu de l'ordinaire, ce sont des actions de très grande envergure. Mais lorsque la personne se retrouvait seule, on pourrait rajouter de l'obscurité, et le terme exact, c'est lorsque les portes et les fenêtres sont fermées, c'est-à-dire qu'il n'y a plus personne pour le voir, là la personne sombre dans les péchés. Et à l'époque, quels étaient les péchés possibles? Il y en a quelques-uns, mais un des péchés possibles, c'était qu'une personne, le soir, quand personne ne le voit, il peut consommer de l'alcool. Et une fois, Omar ibn al-Khattab est rentré dans la maison d'une personne, il l'a vu avec une bouteille et il l'a réprimandé. Et l'histoire est très connue. Et puis, on a donné tort à Omar, il a dit que dans ce moment-là, il était seul. On n'a pas le droit d'espionner une personne. C'est entre lui et Allah. C'est le péché entre lui et Allah. Tu n'as pas le droit, on n'a pas le droit d'aller voir au-delà des murs qu'est-ce qu'une personne fait. Ça, c'est un exemple pour vous dire que quelle était la notion de péché caché qu'une personne peut accomplir seule lorsqu'il est à l'abri des regards d'êtres humains, bien sûr, parce que le regard d'Allah, Azza wa Jalla, lui, il est permanent. Et donc, il disait que ces personnes se présentent, c'est là qu'on s'était bloqué, on est parti ailleurs. Lorsque la personne se présente devant Allah, il a des actions comme des montagnes, mais ces actions seront réduites à ba'am manthura, nas'alullah al'afiyah, ces actions seront réduites à néant, en poussière, parce que lorsque cette personne était seule, il ne se préoccupait jamais du regard d'Allah sur lui. Lorsqu'il devait s'adonner à ses passions, ou répondre à ses pulsions, ou aller vers les péchés que son cœur lui dicte, ou lui demande son nafs, pas son cœur, son nafs, ses passions lui demandent d'accomplir, il les faisait sans penser une seconde, quel est le regard d'Allah sur moi à cet instant. Et les exemples qu'on met en avant avec nos élèves, nos grands, c'est bien sûr, on donne des exemples, vaut mieux que ce soit concret, tous les sites pornographiques qu'il y a sur Internet, auxquels on peut accéder par l'ordinateur ou par notre portable. Tout ça, ikhwan et fillah, il faut jamais sous-estimer un péché. Il faut jamais arriver à une situation où on se dit que, écoute, moi je n'ai pas de copine. Je ne sors pas avec une fille, donc je n'accomplis pas l'adultère, je ne fais pas ce genre de péché, je vais sur un site et je regarde des trucs. Ça peut être des waswasas de shaitan. Shaitan, il essaie toujours d'embellir, et de minimiser le péché. Mais il n'y a pas de petit péché. Quand les sahaba, ils parlaient de petit péché, ils disent que, ça c'était dans Riyad al-Salihin, ils disent que vous accomplissez, les sahaba qui parlent aux générations qui viennent après eux. C'est pas les sahaba, ils nous envoient un message, oh vous, habitants du 20e siècle, aux générations après eux. Ils disent, vous faites des erreurs, vous, que, virgule, à notre époque, on les considérait mithl al-kaba'ir. Et que vous considérez ça comme insignifiant, comme étant des petites fautes. Déjà pour qu'on réalise, on revoit notre échelle de valeur concernant les péchés et les erreurs. Il n'y a pas de petits péchés. Si tu es sur un site classique, genre 20 minutes, clique à nous, ou je sais pas, TF1, bref, des trucs d'information, et il y a des fenêtres, comment ça s'appelle, des pop-up, hein? Là, ça va aller, tranquille, le stélahat, c'est pas pour moi. Vous avez des fenêtres qui s'ouvrent, d'accord? Et maintenant, il faut mettre des antivols, il faut mettre tous les antivirus, des trucs comme ça, là. Oui, je sais, antivirus quand même, hein? Antivirus qui bloque les fenêtres envahissantes, d'accord? Il faut mettre des persiennes plus solides aussi. Non, t'avais pas pensé à ça. Et donc, il faut bloquer un peu tout ça. Mais si par inadvertance, il y a une fenêtre qui s'ouvre et tout, mais c'est des situations qu'on vit 35 fois par jour quand on est sur ordinateur, d'accord? Mais c'est là qu'on voit la faculté à surfer. Surfer dans le sens spirituel cette fois-ci, d'accord? Tu surfes au-dessus de toutes les pièges de Shaitan. Shaitan, il t'envoie des missiles, il t'envoie des obus, il t'envoie des tentations, des invitations vers le haram, et toi, tu es au-dessus. Parce que ton iman est formé. Tu n'es pas celui qui chute et qui suit son regard, qui suit ses oreilles, qui suit tous les shahawas, toutes les pulsions. À partir du moment où un de tes sens émet un signal, tu le suis. Ça, c'est contraire au taqwa. Le taqwa, c'est ne jamais désobéir à Allah. Ne jamais se mettre volontairement dans une situation de désobéissance. Et faire tout ce que tu peux pour être tout vissé. Et tu repasses, tu visses, tu fais en sorte que ce soit bien imperméable, qu'il n'y a rien qui transperce, que rien ne peut te toucher. Et ce souci permanent d'être protégé. Ça, c'est une réaction de foi, un fikar permanent pour notre iman et pour la protection de ce iman. Hada. Donc, Yom Atoub Lassara'ir, en ce jour, on voit réellement la nature des gens. Donc, comme on l'a dit, c'est parfois, c'est une sagesse. Et c'est la clémence d'Allah que nos défauts ne sont pas dévoilés auprès des gens. Mais le jour de Qiyam, hein, tous les défauts seront dévoilés, qu'Allah nous protège d'être humiliés en ce jour, et que, inshallah, le jour de Qiyama, nous serons ressuscités parmi les pieux et nous serons invités sous l'ombre de son trône, et ce fameux Jannatul Na'im sera pour nous. Ensuite, il y a cinq ou six versets, afana ja'alul muslimina kal mujrimin, c'est depuis le verset 35 jusqu'au verset 41 qu'on a lu, et il me semble qu'on avait lu la traduction la semaine dernière. Traiterons-nous les personnes qui sont soumises à Allah, c'est-à-dire les musulmans, les croyants, à la manière des criminels? Et là, Allah Azza wa Jal va reprocher aux Quraysh qui avaient à un moment donné adopter un avis, ça venait d'eux-mêmes, et ils se sont dit que, déjà à la base, les Quraysh ne croyaient pas à l'au-delà. Les personnes qui vivaient avec le prophète sallam, les Quraysh, les polythéistes parmi les Quraysh, ils ne croyaient pas à la vie après la mort. Mais lorsque le prophète alayhi salatu wassalam avait reçu les versets qui décrivaient de façon extrêmement précise la vie de l'au-delà, certains Quraysh, ils ont essayé d'analyser et de procéder par analogie. Ils ont dit, comme les choses sont organisées de ce monde, donc s'il y a une vie dans l'au-delà, ce sera pareil. Les ashraf, ceux qui ont un haut rang de la société, les personnes riches, les personnes qui sont donc honorées, ils auront ce rang là-haut, et ceux qui sont en minorité, ceux qui sont en nombre réduit comme les musulmans et qui n'ont aucune force, aucun pouvoir, ben ce sera également leur situation là-haut. En fait, ils ont essayé de développer cette thèse pour se réconforter un petit peu par rapport au verset qui était révélé à Mecca concernant l'au-delà. Et c'est par rapport à cet avis émis des Quraysh, qui n'avaient bien sûr aucune source, qu'Allah Azza wa Jal reproche lourdement. Qu'avez-vous? Comment jugez-vous? Ou bien avez-vous un livre dans lequel vous apprenez? Il y a des questions qu'Allah Azza wa Jal révèle au prophète alayhi salatu wa salam à l'attention des Quraysh, pour que eux-mêmes, parce que les Quraysh écoutaient tout, chaque verset, il faisait en sorte de connaître qu'est-ce qui a été révélé, parce que souvent ça parle d'eux, et intérieurement il y avait quelque chose, on avait déjà dit ça, il y avait quelque chose en eux qui reconnaissait cette vérité. Ils étaient en même temps intéressés, mais la fierté, l'orgueil et le rang qu'ils occupaient dans la société faisaient qu'ils ne voulaient pas aller vers le haq. Ou bien avez-vous un livre dans lequel vous apprenez qu'en vérité vous obtiendrez tout ce que vous désirez? Donc ces questions qu'Allah Azza wa Jal révèle au Prophète sallam et qui seront entendues par les Quraysh pour qu'ils réalisent que vraiment cette affirmation n'a aucun sens. Cette affirmation n'est pas du tout la vérité, ce ne sera pas comme ça que ça va se passer dans l'au-delà. Ou bien est-ce que vous avez obtenu de nous des serments valables jusqu'au jour de la qiyam, de la résurrection, nous engageant à vous donner ce que vous décidez. Et là aussi, ils voient que Allah n'a rien révélé leur concernant qu'ils auront cette place là-haut. Donc, ils se rendent compte que cette thèse, elle n'est pas correcte du tout. Demande-leur, qui d'entre eux en est garant? Encore une fois, là de le verset 40, Allah Azza wa Jal révèle au prophète, demande à ses collègues, qui parmi vous est garant? Qui s'engage, qui fait la promesse et qui atteste que le jour de la résurrection, les Quraysh, ce seront eux les plus honorés comme ils étaient les plus honorés à Mecca et dans la péninsule arabe. Ou encore, est-ce qu'ils ont des associés? Eh bien, qu'ils fassent venir leurs associés s'ils sont véridiques. Si c'est Al-Lat, si c'est Al-Uzza, si c'est Manat, si ce sont ces idoles que vous adorez, si c'est eux qui vous ont révélé que là-haut, vous serez sous notre protection, amenez ces idoles. Et récitez-nous ce qu'ils vous ont révélé. Et ils se rendent compte que ces idoles ne leur ont jamais apporté quoi que ce soit, ni échange, ni réconfort, et ils ne pouvaient même pas placer leur confiance en ces pierres. Donc, c'est un discours qui va à l'encontre de cette pensée de certains Quraysh. Et là, on a le verset, là, on a notre dénouement tout à l'heure. Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. C'était la bonne nouvelle pour les croyants à cette époque, mais également à toutes les époques. Et là, on a un autre verset qui fait office, ça c'est de moi, c'est pas un tafsir, qui fait office d'électrochoc, qui réveille ces cœurs endurcis, qui réveille ces cœurs qui se sont retournés contre le Coran pour qu'ils se rendent compte que là-haut, il y aura des choses terribles qui vont se produire dès les premiers instants du mahshar de l'au-delà. Et là, ça nous amène vers d'autres versets. Yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un. Verset 42, le jour ils affronteront les horreurs du jugement et où ils seront appelés à la prosternation, mais ils ne le pourront pas. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum 'izza wa dhillah. Leurs regards seront abaissés. Abaissés, c'est-à-dire, ce sera une humiliation pour eux. Et l'avilissement les couvrira. Tout ça, les Quraysh l'entendent. Et ce sont là, après avoir honoré le mu'min par « Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im », maintenant, voilà le message pour ses ennemis, pour ceux qui ne croient pas au prophète alayhi salatu wassalam, qu'en ce jour, ils vont affronter les horreurs du jugement, des choses qu'ils ne peuvent même pas concevoir, même pas imaginer. Et puis l'autre partie, ça nous intéresse, on va le commenter, la prosternation et qu'ils ne pourront pas faire. Et également, regard abaissé et l'avilissement les couvrira. Or, ils étaient appelés à la prosternation au temps où ils étaient sains et saufs. On va se souvenir de ce couplet deux ou trois versets. Yawma yukshafu 'an saq wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un. Ibn Kathir rahimahullah il commente ya'ni yawm al-qiyamah, yawma yukshafu le jour où, c'est-à-dire le jour de qiyamah, wa ma yakunu fihi min al-ahwal waz-zalazil wal-balaya wal-imtihan wal-umur al-'idham. Jusqu'à la fin de son commentaire, il dit que toutes les situations critiques, horribles, insupportables que les gens devront voir et ensuite subir le jour de Qiyama, c'est de ça qu'Allah Azza wa Jal les met en garde. Et en commentaire, certains Mufassirin rappellent également que Mawdou al-Akhirah, que les versets qui décrivent l'au-delà, on les retrouve dans la plupart des chapitres du Coran. Parce que ça, c'est un élément clé. Les savants, ils parlent de Miftah al-Fahmi. Ça, c'est la clé de la compréhension. La personne qui a compris c'est quoi l'au-delà. Il a tout compris de la religion. Celui qui reste éloigné de la religion, c'est qu'il y a une faiblesse dans sa compréhension et peut-être même son acceptation de l'au-delà. Une personne qui ne prie pas régulièrement, une personne qui, de temps en temps, sombre de le haram, il a le choix, mais il a envie de se faire plaisir, il y va, c'est qu'il n'a pas réellement intégré qu'un jour il retourne auprès d'Allah et qu'il répond de ses actions. Une personne qui se réveille, son réveil sonne à 5h20, il lui reste 10 minutes, pour aller à la prière de Fajr, ici c'est 5h40, donc il lui reste, 45. Et chez nous toujours 5h30, il vient de passer 5h35, alhamdoulilah, on aura peut-être plus de récompenses que vous, inchallah. Et donc, le réveil il sonne à 5h20, et il sait qu'il reste 10 minutes, c'est le temps qu'il faut pour se préparer, faire les ablutions, il dit que non, aujourd'hui c'est samedi ou bien c'est dimanche, la personne décide de redormir. C'est que cette personne, sa réaction, c'est pas uniquement une réaction de fatigue ça, c'est pas que il est ma'zour, il est excusé parce qu'il est fatigué. Et puis Allah est le seul juge en eux. Hein. Mais cette ce refus d'aller de l'avant et de se rapprocher d'Allah, de faire des efforts pour Allah, de lutter contre son nafs qui aimerait qu'il reste au lit, qu'il profite de ce lit douillet, de ce sommeil, ben ça prouve également, ça traduit un manquement dans la conviction sur l'au-delà. Alors que le mu'min, « وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ » Yuqinun, le yaqin sur l'au-delà. Et c'est celui qui a la conviction sur l'au-delà, il ne commet pas ce genre d'erreur. Quand une porte de bienfait s'ouvre, il y va. Au contraire, il remercie Allah que, alhamdoulilah, il s'est réveillé à 5h20, il reste 10 minutes, je peux faire la prière à la masjid. D'accord? Il ne se ferme jamais lui-même une porte de khayrat, et lorsqu'il y a une porte de shar, une porte de péché, il est le premier à le fermer pour éviter d'aller vers le haram, parce que il a yaqin sur l'au-delà. Wattaqu yawman تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. Ça, ce sont des versets clés qui construisent ta compréhension de ce monde. À partir de ces versets, tu comprends tout et tu arrives à faire le lien entre tes choix, tes décisions et leur dénouement, leur résultat là-haut. Celui qui a intégré ça, il n'a plus besoin de grands discours. C'est pour ça que les sahaba, c'est très rare que le prophète faisait de grands discours. C'était des khutbah, c'est-à-dire des sermons très rapides. Les fois où il a fait un grand sermon, c'était pour décrire les signes de Qiyam. Il a commencé le matin jusqu'à la prière de Dhor, il a continué. Mais à part ça, ses sahabas ont pris soin de le rappeler, de préciser le temps qui a été passé dans ces sermons, c'est qu'ils n'étaient pas de leurs habitudes. Et dans Riyad al-Salihin, on a vu certaines descriptions de soit des sahabas de plus prédécesseurs, lorsqu'ils allaient voir un savant pour leur demander conseil, le savant... Il se suffisait de leur dire « Ittaqillah, crains Allah ». Et la personne se mettait à trembler et s'il avait quelque chose dans ses mains, l'objet tombait. Tellement la personne était prise de crainte lorsqu'on lui faisait le rappel concernant la crainte d'Allah. C'était ça le déclic chez les sahabas. Qu'on leur rappelle qu'Allah est au-dessus de toi, qu'Allah te voit, qu'Allah sait ce qu'il y a dans ton cœur, c'était amplement suffisant. Parce que eux, quand ils pensent, quand ils font ressurgir la crainte d'Allah, c'est une crainte d'Allah qui les immunise totalement contre les péchés et qui les garde dans le droit chemin. Qu'Allah nous accorde ce niveau. Allahumma amin. Donc, يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ. Dans un hadith, Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, rapporte, سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكْشِفُ رَبُّنَا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة ostentation فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. Alors, dans ce hadith, le prophète عليه الصلاة والسلام, ça c'est la deuxième partie qui nous intéresse, qu'on va peut-être développer, que le jour de Qiyama, Allah, après il y a différents tafsirs de Yawma Yukshafu An Saq, il y a des tafsirs plus accessibles, Ay An Amrin Azim, on parle de toutes les difficultés de l'au-delà. Autre tafsir, Yawma Yukshafu An Saq, Ay An Nourin Azim, Yakhirruna Lahu Sujjada, qu'une lumière va apparaître le jour de la résurrection, et lorsque les croyants vont voir cette lumière qui émane d'Allah, tous les mu'mines vont se prosterner. Ils vont tomber en prosternation. Après, il y a d'autres tafsirs concernant Yawma Yukshafu An Saq. C'est une autre interprétation, mais ça reste très technique et malheureusement, ça a créé des divergences. Et je suis d'avis que ce qui peut créer des divergences, on n'a pas besoin de les citer. Quand il y a des divergences d'opinion et qui peut susciter l'incompréhension, il faut aller vers l'essentiel. Ce qui nous permet de nous raccrocher au dîn d'Allah, ce qui nous permet d'avancer. Bien malheureux les personnes qui cherchent uniquement les points de divergence pour broder, rédiger des livres et créer peut-être même des groupes et opposer les groupes. Allah musta'an. Et je crains que c'est une faculté que Shaitan a eue avec ceux qui ont un peu de ilm de les séparer par rapport aux divergences. Et c'est vraiment dommage. Vraiment qu'Allah donne la possibilité de revenir vers l'essentiel, vers la pratique. Qu'on n'oublie jamais Yawma Tublas Sara'ir. Qu'on n'oublie jamais Inna lil Muttaqina Inda Rabbihim Jannatin Na'im. Qu'on n'oublie jamais Wattaqu Yawman Turja'una Fihi Ila Allah. Ça, ce sont des versets qui nous ramènent vers l'essentiel. L'essentiel, c'est quand tu es devant Allah seul. Qu'as-tu fait de ta vie? Qu'as-tu fait de ta jeunesse? Qu'as-tu fait de ton temps? Qu'est-ce que tu as fait du ilm qu'Allah t'a accordé? Est-ce que c'est juste pour se taquiner comme avec des cure-dents, tu piques, il te pique, jusqu'à tu as 70 ans, 80 ans, et en attendant, tu n'as rien fait pour la Ummah, fois ces jeunes qui vont en boîte de nuit, ces jeunes qui Wallah Musta'an, vont vers des péchés qu'on n'imagine même pas. Qui c'est qui va les aider? Qui c'est qui va faire un pas vers les personnes qui s'éloignent de la religion, des personnes qui ont besoin de ilm, qui ont besoin de propagation, qu'Allah nous ramène vers l'essentiel. Donc ce qu'on garde comme tafsir qui nous est accessible, yawma yukshafu an saq ay an amrin azim, que ce sont les situations effrayantes de l'au-delà qui vont apparaître et que les gens vont se prosterner. Et l'autre tafsir, et c'est une lumière qui vient d'Allah, et les croyants vont se prosterner. Alors qu'est-ce qui va se passer à cet instant? Et comme on l'a dit, que yawm atubla sarair, les réalités, là, ce qu'il y a vraiment de le fond du cœur va apparaître. Ceux qui étaient sincères, ceux qui avaient vraiment iman de leur cœur, pourront se prosterner devant Allah Azza wa Jalla en ce jour. Alors que ceux qui n'avaient pas la ilaha illallah, ils ne pourront pas suivre le mouvement. Et dans d'autres tafsirs, il est dit qu'ils mettent de côté d'emblée les kuffars, qui eux n'auront même pas la possibilité d'y réfléchir. D'accord? Mais il restera, d'où le hadith qu'on a lu tout à l'heure, il restera les personnes qui mankana yasjudu fid dunya riya'an wa sum'atan. Ceux qui se prosternaient dans ce monde, c'est-à-dire qui pratiquaient la religion par ostentation. Riya, c'est pour que les gens les voient. Sum'a, c'est pour qu'on parle d'eux, pour qu'on entend parler d'eux. Qu'Allah nous protège de ces deux catégories. De l'ostentation et du riya de l'ostentation d'une manière générale. Donc, ces personnes qui n'étaient pas sincères de leur a'mal, ils vont essayer, fayadhabu, liyasjuda, il va essayer de se prosterner, fayaoudu dhahruhu, tabaqan wahida, sa colonne vertébrale, son dos n'obéira pas à la personne. Lorsqu'il essaie de se courber, le dos se redresse et la personne n'arrive pas à se prosterner devant Allah Azza wa Jal parce qu'Allah Rabbul Izzah ne leur accorde pas cet honneur en ce jour. Celui qui s'est prosterné mukhlisan lillah dans ce dunya, eux, Allahumma ja'alna minhum, eux ils pourront se prosterner devant Allah le jour de Qiyamah, mais ceux qui ne le faisaient pas ou qui le faisaient mais pas sincèrement, ils n'auront pas cet honneur d'avoir cette posture de soumission devant Allah le jour du Qiyamah. Et également, dernier commentaire, les savants disent également, quelle khasara, quelle vie gâchée, une personne née et qu'une personne meurt et il ne se prosterne pas une seule fois devant Allah. Ya al-khasara. Quelle khasara, même si cette personne avait eu tous les biens de ce monde, mais qu'il n'ait pas eu tawfiq une fois au moins de sa vie de poser son front sur le sol pour dire que c'est Allah le plus grand. Ça, c'est vraiment une personne qui a perdu khasira dunya wal akhira. Il a perdu son dunya et wal akhira également, parce que celui qui ne s'est pas prosterné de ce monde ne se prosternera pas le jour de Qiyamah. Qu'Allah nous protège, ikhwan et fillah, qu'Allah nous protège de l'ostentation, qu'Allah nous protège d'accomplir des actions pour faire voir aux gens ou pour d'autres choses que wajhillah, que la recherche du contentement d'Allah, parce que là-haut ça se paye cash. Là on parle pas de l'enfer, là. On parle pas des punitions, on parle d'une situation de début où les mu'mines se prosternent et que celui qui n'était pas sincère, il n'arrive pas à le faire. Dès le départ, il y a une différence entre le croyant sincère et le croyant qui ne faisait pas preuve de sincérité. Qu'Allah Azza wa Jalla nous protège et qu'Allah Rabbul Izzah nous accorde la possibilité de nous jeter en prosternation devant lui en ce jour azim, et que par ce sujoud, par cette prosternation, qu'Allah nous accepte et nous gratifie, nous récompense, nous rétribue et surtout nous enlève des situations difficiles du akhira, de l'au-delà. Il y a une petite latifa, comment dire, c'est quelque chose de subtil qu'on voit également à travers ce verset. Il dit que al-iman bil mu'ayana la yanfa'. La foi, quand on voit, ça n'apporte plus rien. Parce que ces gens-là, pourquoi ils veulent se prosterner là? Parce qu'ils ont vu l'enfer, ils ont vu les ahwal, et ils ont vu les anges. Ils ont compris que c'est la vérité. Mais à cet instant, lorsque l'œil a vu la vérité, la foi n'a plus d'intérêt. Parce que la foi, c'est alladhina yu'minuna bil ghaib. Si tu crois sans voir, tu crois sans entendre, tu crois sans pouvoir toucher, c'est uniquement parce que tu crois en Allah et que tu as une conviction dure comme le fer et plus dure encore, c'est là la beauté de la foi. Mais celui qui a déjà vu l'au-delà, même s'il essaie de se prosterner, ça ne lui apporte rien. Et la foi en Allah, le jour où les gens voient Allah, le jour où les gens voient le Qiyamah, c'est une foi qui ne leur sera d'aucune utilité. Qu'Allah nous protège, qu'Allah raffermit notre iman et nous permet, inshallah, d'avancer, de comprendre ces réalités et de toujours pouvoir se projeter via les situations de l'au-delà dans toutes les situations de notre vie. Il ne restera deux thèmes à aborder pour compléter la sourate Al-Qalam. C'est lorsqu'Allah Azza wa Jal demande au Prophète de ne pas agir comme Yunus alayhi salam, qu'as-sahib al-hut, et les derniers versets concernant les regards des hypocrites et des, non pas des hypocrites, on est à Makkah, les regards des Quraysh, des amis du Prophète sur lui, et quelques versets donc en rapport avec ça. Et après, je pense que une séance, on va compléter surat al-Qalam et on pourra, inchallah, continuer à avancer jusqu'au mois de Ramadan. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursaleen walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khair.